Vous écoutez
RMC.
6h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'événement ce matin, Elisabeth Borne, l'invitée de RMC à quelques heures de la présentation du projet de loi de finances et du budget de la Sécu, se mêle à haut risque pour le gouvernement. Ce coup de tonnerre politique, l'extrême droite en tête des législatives en Italie, entre 40 et 45% des voix selon les estimations, et ce coup de froid pour la France en football, battu 2-0 au Danemark à 2 mois seulement du Mondial.
Et c'est donc sur RMC que le marathon commence pour le gouvernement.
Avec la Première Ministre Elisabeth Borne, invitée de RMC et de vous au 32-16 de 8h15 à 9h ce matin, avant la présentation donc très attendue des projets de loi de finances et du budget de la Sécu, avec aussi cette journée de grève jeudi en perspective. Voilà donc dans quel contexte la Première Ministre va lancer la semaine en quelque sorte ce matin sur RMC. Elle qui a la particularité d'être moins connue que le Président, mais plus populaire. La preuve, écoutée avec Nicolas Trénaud à Meaux en région parisienne. Parisienne, près de Paris pour RMC.
Première étape au bar tabac Saint-Rémy, où peu de clients connaissent son nom ou son visage photographié en pleine page dans le journal du jour.
C'est la Borne.
Raté.
Comment elle s'appelle elle? Non, mais c'est qui elle? Attends,
je... Elisabeth Borne est plus connue chez le coiffeur.
Bonjour.
Les deux clientes l'identifient très bien. Il y a Ginette, cheveux courts.
Il y a un petit air, non, avec votre type de cheveux?
Si je ressemble, c'est pas le compliment.
Elle est assez sévère, mais bon, elle a l'air assez sérieuse quand même.
Cette image négative, pour certains, n'est pas un inconvénient pour tout le monde.
Elle a l'air assez stricte avec ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui est plutôt droit dans ses bottes, dans ses idées. C'est plutôt un atout.
Avec de plus en plus d'opinions favorables, la Première Ministre grimpe dans les sondages et rattrape le Président.
Elle a les compétences et la bonne posture.
Et sa méthode, répétée dans toutes les interviews, la concertation, consultée au-delà de son propre camp, Nathalie apprécie l'idée.
S'il n'y a pas de communication, on ne va pas avancer. Moi, ça me plaît.
L'électrice de gauche à la table derrière ne croit pas à cette ouverture.
C'est le bon petit soldat de M. Macron.
Persuadée que la Première Ministre, présentée comme la caution de gauche du gouvernement, n'aura pas souvent le dernier mot face au Président.
Alors sera-t-il question des retraites aujourd'hui? A priori non, pas dans le texte qui sera présenté par le gouvernement en tout cas. Et Pierrick Bonneau du service politique et RMC, vous nous dites ce matin que le gouvernement n'est pas certain du tout d'avoir la majorité.
Oui, avec ou sans cet amendement sur les retraites, ce texte va mettre au jour toutes les fractures au sein de la nouvelle Assemblée, car au-delà des motions de censure de la France Insoumise et du Rassemblement National, si jamais la réforme des retraites s'invitait dans les débats, plusieurs points du budget vont enflammer les discussions. La NUPES et le RN font notamment pression en faveur d'une taxe sur les super-profits face à une majorité divisée sur la question. La question des collectivités également, elles sont confrontées à des factures énergétiques qui explosent et leur financement va faire partie des points très chauds des débats, selon le rapporteur général du texte. Sur toutes ces questions, la majorité va devoir se chercher des alliés dans l'hémicycle, notamment chez les Républicains, Républicains particulièrement tatillons hein, sur les questions budgétaires.
Il est 6h33, vous écoutez RMC et après la Suède, il y a 2 semaines, c'est donc en Italie que l'extrême droite fait une percée historique en arrivant en tête des élections législatives. La coalition donnée entre 40 et 45% des voix selon les estimations. C'est la première fois depuis 45 qu'un parti issu du fascisme est aux portes du pouvoir, avec pour programme des baisses d'impôts, la défense des familles dites naturelles, le blocage aussi des bateaux de migrants. La chef de cette coalition, Giorgia Meloni, a pris la parole dans la nuit pour revendiquer la victoire devant ses soutiens comme Rosanna, qui espère du changement maintenant en Italie.
Je suis vraiment heureuse parce que j'attendais ça. J'étais anxieuse depuis 2 jours. Elle est patriotiste, elle est nationaliste. Moi, je sens tout ça dans mon cœur. La première chose, le plus que je veux, c'est vraiment ce qu'il a dit d'abaisser les impôts. Pour les entreprises, c'est très difficile parce que les impôts sont très hauts. Elle n'a pas eu la chance de le faire parce qu'elle a toujours été à l'opposition toute seule. Je crois qu'elle mettra en plein tout ce qui était sur ce programme. On est vraiment au début d'une nouvelle histoire pour l'Italie.
La journée s'annonce tendue à Saint-Étienne, la ville, vous le savez, secouée depuis cet été par cette affaire du chantage à la sextape, affaire qui implique le maire Gaël Perdriau, un de ses adjoints qui vient de démissionner, et un ancien élu filmé à son insu dans un hôtel parisien avec un escort boy. La colère gronde à Saint-Étienne, c'est ce que nous dit Vincent Chevalier sur place pour RMC.
Dans les rues de Saint-Étienne, le sujet agace. Les habitants voudraient rapidement passer à autre chose.
Ça me dégoûte un peu, ouais, ces histoires et tout. Je pensais pas de ça, quoi. Pourtant, c'est un maire.
Il a fait beaucoup de choses pour Saint-Étienne, je pense. Hein. Il y a eu un bon démarrage. Après maintenant, moi, à sa place, je démissionnerai.
Des nouvelles élections, ça serait préférable pour tout le monde.
Une démission demandée par l'opposition. Selon Pierrick Courbon, conseiller municipal, le maire ne peut plus assurer ses fonctions sereinement.
Il règne un climat, vous l'imaginez, absolument délétère, parfaitement malsain au niveau de l'hôtel de ville et de la métropole.
Et encore une fois, si on aime cette ville, si on aime la démocratie municipale, on ne peut pas accepter que cette situation pourrisse comme elle est en train de le faire.
De son côté, la majorité se fissure. 9 élus avaient demandé à Gaël Perdriot de se mettre en retrait de ses fonctions. Chose faite depuis jeudi, mais ça ne suffit pas pour l'un de ses adjoints.
Je me mets en retrait, mais ça veut rien dire dans la vie politique, le retrait.
Lionel Boucher, chargé des animations.
Soit tu gardes tes responsabilités, ton bureau, ta signature, tes indemnités, soit tu te dis, je me suis mis à la faute, maintenant pour assurer ma défense, il faut que je démissionne.
Une manifestation se tiendra devant l'hôtel de ville quelques minutes avant le début du conseil municipal.
Cette question ce matin, le procès du drame de Mias va-t-il reprendre comme prévu aujourd'hui à Marseille? Procès suspendu en fin de semaine dernière depuis que la conductrice a été victime d'un infarctus, placée en soins intensifs à l'hôpital à Marseille. Elle était interrogée sur la collision entre son car scolaire et un TER qui a tué 6 collégiens à un passage à niveau il y a maintenant 5 ans. Pas certain du tout qu'elle soit au tribunal. Aujourd'hui, des examens médicaux sont prévus et si elle n'est pas là, eh bien l'avocate des parties civiles, Marie Mescam, compte demander un report du procès.
Le fait qu'elle doit faire face aujourd'hui est indispensable pour les victimes. Elle ne peut pas s'esquiver. Depuis 5 ans, elle s'esquive, elle tient un discours qui est quasi automatique, à savoir les barrières étaient baissées, je n'ai rien fait, je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi. Donc elle a ce discours quasi automatique depuis maintenant près de 5 ans. Cette défense est de plus en plus difficile à être soutenue, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle va devoir faire face. Et c'est ce qu'on lui demande, de faire face.
Le décompte est lancé ce matin. On est à 57 jours précisément de la Coupe du Monde de football au Qatar et les Bleus nous ont inquiétés beaucoup hier soir. Un battu 2-0 au Danemark dans le cadre de la Ligue des Nations. Alors la relégation était évitée dans cette compétition, mais l'essentiel était ailleurs. C'était la dernière sortie, même le dernier rassemblement des Bleus avant le Mondial. Alors peut-on avoir confiance ou faut-il s'inquiéter avec cette défaite 2-0? Question posée au milieu Aurélien Tchouaméni qui a tenté de donner des explications hier soir.
Déficit de confiance, je pense pas, parce que tout était tout beau, tout rose, il y a encore 24 heures. On venait de battre l'Autriche en faisant un bon match collectif. Aujourd'hui, c'est sûr que on n'a pas été bon, mais je suis sûr qu'à la Coupe du Monde, l'équipe de France sera nettement meilleure. Je suis sûr que lors du match contre le Danemark à la Coupe du Monde, ce sera un tout autre match. Il y aura d'autres paramètres à prendre en compte et on fera les comptes à la fin.
Et puis le réveil du volcan à Clermont qui s'est imposé 22-13 hier soir contre La Rochelle pour la fin de la quatrième journée de Top 14 de rugby. C'est la première défaite de la saison pour les Rochelais et c'est Toulouse qui est leader du championnat ce matin.
On peut rien dire sur La Rochelle, de toute façon, c'est
rien du tout.
Avec Quentin, c'est
ils ont perdu Quentin hier
c'est
soir.
Trop sensible.
Première défaite de la saison, ça va, il y a pire, il y a trois équipes qui se dégagent en tête du championnat.
Le quintet Quentin, c'est à Lyon Paris.
13h50 en début d'après-midi sur RMC Découverte, ça on peut en parler. Le 16, le 13, ce sont les pronostics de la Dream Team des courses RMC aujourd'hui. Le 16 en favori Elis Kaberi, le 13 en outsider Elan Baroque.
C'était le journal de Quentin Vinet, le Rochellois. Il est 6h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
C'est votre avis dans un instant. Je vous attends au 32-16 autour de cette question. Est-ce que la réforme des retraites sera l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres? Rentrée sociale dès jeudi avec une première manifestation. Est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser contre cette réforme? Ou alors, est-ce que ça n'est tout simplement pas votre priorité? Venez témoigner, débattre. Le standard vous est ouvert. Venez me transmettre vos questions, vos témoignages pour la Première Ministre Elisabeth Borne. Je vous rappelle qu'elle sera mon invitée dès 8h15 sur RMC.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, et comme chaque jour, RMC PJ tous les matins, une histoire repérée par le service police-justice d'RMC. Et bien ce matin, écoutez bien, on vous parle d'un délinquant fiché S, surpris en train de recharger la machine à café d'un commissariat parisien, Guillaume Biais.
Ouais, et imaginez la tête du policier qui s'en est rendu compte. Dans son propre service d'enquête, il va à la machine pour se prendre un café. Et là, il reconnaît aussitôt l'un des deux employés qui sont en train de réalimenter le distributeur. Le policier avait vu cet homme en garde à vue il y a quelques mois pour trafic de drogue. Ensuite, il a été condamné à un an de prison. D'ailleurs, il porte encore un bracelet électronique à la cheville. Mais surtout, cet homme est aussi fiché S, considéré comme dangereux, violent, depuis 2019, où il avait été arrêté avec des cocktails Molotov dans son sac lors d'une manifestation de gilets jaunes. Alors, le voir là, travailler en plein commissariat, c'était un peu fort de café pour le policier qui a prévenu sa hiérarchie. Normalement, tous les prestataires extérieurs qui travaillent comme ça dans les lieux sensibles font l'objet de vérifications avant d'être autorisés à accéder, à avoir un badge. Mais d'après nos informations, cet employé de 32 ans, qui est en réinsertion, qui par ailleurs est pompier volontaire, eh bien lui, il était tout nouveau dans l'entreprise, il n'avait pas encore été déclaré à la préfecture par son patron. Il est d'ailleurs en formation. Il était accompagné ce jour-là par son responsable. Le préfet de police tirera toutes les conséquences de cette affaire, nous ont fait savoir ses services. Ça veut notamment dire que désormais, eh bien, ce salarié ne pourra plus intervenir dans les commissariats. Il n'aurait d'ailleurs jamais dû y entrer, estiment un peu amers les policiers.
Guillaume Bien, chef du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Bienvenue sur RMC 6h42.
C'est votre avis.
Et c'est une date scrutée de près par le gouvernement, je peux vous dire. Jeudi, la CGT appelle à une grande manifestation pour réclamer de meilleurs salaires et surtout dire non à une réforme des retraites. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à aller manifester jeudi ou plus tard d'ailleurs contre cette réforme? La réponse au micro RMC de Mathieu Limongi.
Moi, je serai dans la rue, ouais, c'est assez clair. Je suis dans un métier assez compliqué. C'est trop dur d'aller jusqu'à 65, c'est très compliqué.
Si c'est un métier qui vraiment ne t'intéresse pas forcément, où tu travailles juste pour avoir un salaire, ça coince, le passage en force pose problème.
Ça pourrait commencer, pourquoi pas, se mobiliser. Moi, je suis auxiliaire de périculture, donc 42 ans auprès des enfants. Mal au dos, mal partout, on est fatigué, quoi.
Et à 6h42, il y a Laurent qui nous appelle de Carpentras. Bonjour Laurent.
Bonjour Apolline.
Mais bonjour Laurent.
Vous allez bien?
Mais ça va très bien. Bah, il vaut mieux que ça aille bien parce que j'ai une matinale un petit peu intense quand même ce matin.
Oui.
Voilà. Et j'ai révisé mes classiques sur le budget, sur la retraite, mais je vais essayer de l'entraîner aussi sur d'autres sujets. Hein. La première ministre sur la question de l'état de la France, de la sécurité, de l'énergie. Mais Laurent, moi, ce que je voudrais dès maintenant avec vous, c'est poser le décor sur la question des retraites. Vous êtes chef d'entreprise hein, dans la restauration, c'est ça?
C'est ça. Vous avez
combien de salariés?
J'ai en tout, nous sommes 6 salariés.
6 salariés. Et cette réforme des retraites, vous vous dites, faut qu'elle passe maintenant?
Disons que ça fait longtemps, à mon avis, qu'elle aurait dû passer depuis les gouvernements précédents. Mmh. On est toujours acculé au pied, toujours en France, hein, sur ces lois-là, sur ces retraites, sur ces réformes. On attend. Que ce soit Macron, que ce soit s'il y avait eu Marine Le Pen au pouvoir, ou représentants politiques, ils ont réussi la réforme de la retraite. Alors de quelle manière, comment, pourquoi, ça c'est autre chose. Oui, ce qui m'inquiète un petit peu quand même, c'est que ils prennent pas en compte les pénibilités de travail. Je pense que là il faut vraiment poser maintenant tout à plat sur la réforme des retraites, sur la pénibilité du travail de chaque corps de métier. On peut pas faire une retraite générale pour tout le monde, c'est pas possible.
C'est pas prévu d'ailleurs. Alors c'est tout le problème, je vais vous dire en fait, Laurent, c'est que ça va dépendre, j'espère qu'elle me donnera la réponse tout à l'heure, Elisabeth Borne, ça va dépendre de la méthode, c'est-à-dire que si ça passe par un petit amendement un peu en loose dé, glissé dans le budget de la Sécu, c'est sûr qu'il n'y aura pas tous ces détails et que ce ne sera pas un grand débat. En revanche, si c'est une loi en début d'année prochaine, là, comme vous dites, on pourra tout mettre sur la table. J'ai l'impression que c'est ce que vous préféreriez, Laurent, vous vous dites, il faut...
Alors, non seulement mettre donc la pénibilité du travail, mais le travail, en fait, au centre, parce que on peut plus aussi. Moi, je cotise, j'ai cotisé pendant 26 ans, je travaillais donc sur les bateaux, j'ai cotisé pendant 26 ans,
ouais,
pour ceux qui sont à la retraite. D'accord? Là, on est dans un système où maintenant, il y a beaucoup de gens qui profitent de ce système-là, mais comment ils vont faire, eux, pour cotiser pour nous après? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est... Voilà, et donc je pense qu'il faut remettre aussi le centre du
après,
travail.
En ce moment, il y a un débat aussi sur la question même de la valeur travail. C'est une autre question, mais au fond, les gens sont-ils prêts à travailler plus longtemps alors que même aujourd'hui, ils sont... Pas forcément prêt à travailler beaucoup plus. Emmanuel Le Chip voudrait réagir aussi, Laurent.
Non, parce que Laurent, le problème sur la pénibilité, c'est qu'à chaque fois, on renvoie aux négociations entre partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicats des salariés et syndicats des patrons, et que moi, ça fait 30 ans que je suis journaliste économique, ça fait 30 ans qu'on essaye de faire avancer le débat et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la pénibilité, est-ce qu'on la définit par entreprise, est-ce qu'on la définit par secteur, et qu'est-ce qu'on met en place comme système, c'est très...
Et si je peux en témoigner, Charles, c'est typiquement une usine à gaz. Moi, je travaille depuis des années la nuit, et là, depuis quelques années, on nous a mis en place un compte pénibilité. Donc tous les ans, en fin d'année, je reçois un courrier qui me dit, cette année, vous avez gagné 4 points de votre compte pénibilité. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, de ce que ça vaut.
Très concrètement, c'est quoi ces 4 points?
J'en sais rien.
C'est des points de tombola?
Ouais, exactement. Et surtout, j'ai bien compris qu'avant ma retraite, il y aura eu 10 réformes d'ici là, que ces points, ils vont disparaître, et qu'est-ce qu'ils vaudront à ce moment-là? C'est très complexe. Et puis,
c'est un petit peu comme si tu surcotisais.
Oui, mais voilà. Est-ce que c'est plus pénible de travailler la nuit, de travailler sur un bateau?
C'est bien ça le problème.
Laurent, juste un dernier point. Quand vous dites pénibilité, vous qui travaillez dans la restauration, qui avez, j'imagine, des gens qui font des horaires longs, qui a aussi un peu de manutention, est-ce que vous considérez, par exemple, qu'il y a des métiers de la restauration qui font partie des critères de la pénibilité?
oui, bah moi j'ai l'avantage, j'ai choisi d'ouvrir que le midi, donc et de fermer le dimanche. C'est un choix personnel et familial aussi. Ouais. Mais la pénibilité, oui. Quand moi je travaillais plus jeune et qu'on faisait jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, qu'on se levait le matin à 6h et qu'on faisait ça tout le non-stop, quoi, pratiquement non-stop. Ouais. Oui.
Voilà ce qui devrait être pris en compte. Comme quoi chaque parcours de vie, parce que vous, votre parcours, Laurent, quand vous parlez aussi de votre parcours sur les bateaux, tous ces parcours de vie sont très différents. Comment trouver la finesse de lecture de chacun avec la pénibilité? Merci en tout cas, Laurent, d'avoir posé le décor. Laurent, qui est donc favorable à cette réforme, mais une réforme que l'on puisse faire vraiment complète avec une vraie discussion, une vraie réflexion. À 6h47, on va aussi accueillir Philippe, qui voudrait me faire part d'une question pour Elisabeth Borne. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Philippe, vous êtes gérant, c'est ça, dans l'Isère?
Oui,
gérant de quoi?
D'une petite entreprise d'imprimerie.
D'accord. Et qu'est-ce que vous demanderiez à Elisabeth Borne?
Ben voilà, donc j'ai eu mon conseiller Total Direct Énergie vendredi.
D'accord.
Donc il m'annonce ce que je vais payer donc sur 2022. Donc en 2021, sur deux mois, donc novembre-décembre, je payais à peu près 2 800 € d'électricité. Mmh. Et donc sur 2022, il m'annonce 16 000 €.
Alors attendez, vous passez pas de 2 000 à 16 000?
Non, sur deux mois, je vous dis.
D'accord.
2 700 et je passe à 16 000. Et sur deux mois.
Vous passez de 2 700 à 16 000 pour la même durée de temps.
C'est ce qu'il m'a annoncé vendredi.
Mais Philippe, comment vous avez réussi à dormir ce week-end?
Je sais pas comment on va faire, je sais pas, on verra. Donc c'est plus de multiplier par 10.
C'est ça, c'est plus de multiplier par 10. Et c'est voilà.
C'est novembre-décembre.
C'est vos mois les plus chargés.
Bah, nous on a besoin d'électricité, on chauffe, on a des machines qui consomment de l'électricité, hein, donc voilà.
Est-ce que vous avez signé, demande Emmanuel.
Comment?
Est-ce que vous avez signé?
Non, pour le moment, non.
Non. Mais cela dit, moi, c'est une question d'ailleurs que je pose autant à Emmanuel Le Chypre qu'à vous. Philippe, quand on entend Emmanuel Macron, la semaine dernière, qui dit au patron de TPE, ne signez pas ces contrats exorbitants, moi je veux bien, mais si Philippe, il signe pas, il fait quoi, Emmanuel?
Après, faut peut-être voir d'autres fournisseurs, faut voir peut-être les contrats, je sais pas, là, donnez-vous quelques jours pour. Votre conseiller, vous lui dites que vous changez, je sais pas. J'ai pas la réponse.
Ça me pose un vrai problème. J'ai entendu l'injonction d'Emmanuel Macron presque à une forme de désobéissance à toutes ces demandes folles de prix, de factures d'électricité. Et il dit au patron de TPE, tout comme vous, Philippe, vous êtes exactement le profil. Il dit ne signez pas, n'acceptez pas ces prix exorbitants. Moi, je veux bien, mais Philippe, il va pas se retrouver tout d'un coup à plus avoir d'électricité.
Non, mais il peut changer de fournisseur.
Ouais, mais vous croyez qu'il y aura beaucoup de fournisseurs qui vont lui faire
changer? Il faut voir auprès de... C'est Total Energy, il faut voir auprès d'EDF, par exemple.
Mais franchement, il y a quand même un gros flou. Philippe, votre question, croyez bien que je la porterai tout à l'heure à Elisabeth Borne. Comme Philippe, vous m'appelez au 3216 pour témoigner et pour demander très concrètement à la Première Ministre toutes vos questions. Ce sera dès 8h15 sur RMC. Mais pour l'heure, il est 6h50.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h51, notez bien le programme de la matinale. On va rire bien sûr, Arnaud Demange sera avec nous à 7h20. Et notez-le bien, ce matin exceptionnellement, il sera là à 8h10, juste avant mon interview d'Elisabeth Borne. Notez-le également, interview événement, Elisabeth Borne, la Première Ministre, qui répond à mes questions mais aussi aux vôtres. Au 3216, vous me soumettez vos questions et vos témoignages pour faire l'interview avec moi. Ce sera dès 8h15 sur RMC. On va parler aussi insécurité, ce sera l'un des thèmes de l'interview justement à 7h10. Nous partirons à Nantes avec une restauratrice dont les serveurs ont désormais des bombes lacrymogènes à la ceinture. Elle sera notre témoin du jour. Elle témoigne d'une situation d'insécurité omniprésente à Nantes désormais. Il est 6h52.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
6h52 et c'est le portrait du jour, Nicolas Poincaré. Cet inceste qui explique en partie le parcours de Corinne Massiero dont vous nous dressez le portrait ce matin.
Oui, parce que cette femme témoigne ce soir dans un documentaire d'Andrea Rawlings qui passera sur France 3 vers 23h. Et parmi elles, donc, Corinne Massiero, cette comédienne qui est à part dans le cinéma français. Elle raconte avoir été violée lorsqu'elle avait 6 ou 7 ans par un cousin qui avait 10 ans de plus qu'elle, un traumatisme qu'elle a refoulé pendant presque 50 ans et qui est revenu pendant le confinement comme un flash violent et dont elle a décidé donc de parler publiquement maintenant parce que pour elle c'est un devoir. Parmi les messages qu'elle veut faire passer, il y a celui-ci. On apprend aux enfants qu'il faut se méfier des inconnus. On devrait aussi leur apprendre à se méfier de leurs pères, de leurs oncles, de leurs cousins, puisque 80% des viols ont lieu dans un cadre familial.
Et elle considère que cet inceste, il a frappé tant sa vie qu'il explique en grande partie son parcours.
Oui, parce que pendant ses premières années, ses années de galère à partir de 15 ans, elle a connu l'alcool, la cocaïne, l'héroïne. Elle avoue avoir vendu de la cam, avoir dormi dans sa voiture, avoir fait des tapins à la sauvette. Longtemps, elle expliquait que c'était lié à des histoires d'enfance, sans vouloir préciser lesquelles. Désormais, elle le dit. Finalement, c'est le théâtre qui l'a sauvée. Elle l'a découvert à Roubaix, un peu par hasard, alors qu'elle avait 28 ans. La suite est connue, une carrière avec des rôles populaires à la télé, Capitaine Marlowe ou bien Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi des rôles dans des films ambitieux de Patrice Chéreau, de Jacques Audiard. Au César en 2020, elle dénonce sur scène ce qui domine, c'est-à-dire les hommes blancs, hétéros, bourgeois, catholiques et de droite. L'année suivante, toujours au César, elle se met à poil sur scène pour montrer le corps d'une femme de 56 ans qui ne correspond pas au canon de la beauté. Ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est que ce viol qu'elle a subi enfant a aussi effectivement influencé toute sa carrière, puisqu'elle dit qu'elle a fait de sa laideur un fonds de commerce. Elle ne voulait pas séduire. Elle a, je cite, « décidé d'être moche pour être certaine de ne plus attirer les agresseurs ». Et aujourd'hui, eh bien enfin, elle dit qu'elle se sent belle.
Un témoignage bouleversant donc de Corinne Massiero. Les histoires de Charles.
Les histoires de Charles.
Cette question qui fait grande polémique, oui. Charles. Quelle est la capitale de la pétanque ?
C'est l'INSEE qui a mis le feu aux poudres. Le très officiel Institut des statistiques a publié une étude intitulée « Dénombrement des équipements en 2021 ». On y constate que la ville française qui compte le plus de boulodromes ne serait pas Marseille, mais Toulouse. 101 boulodromes recensés par l'INSEE à Toulouse, qui est en première place devant Reims et ses 86 boulodromes. Marseille n'est que troisième avec à peine 77 terrains de pétanque. Et ça n'a pas du tout plu aux Marseillais interrogés par BFM TV.
Pour nous, à Marseille, on est tombé dedans. C'est un peu comme Obélix, quoi.
La pétanque, ce sont nos gènes, notre patrimoine. Bon, c'était un sport qui fédère beaucoup de générations.
Et la grogne a été telle la semaine dernière à Marseille que nos confrères de la Provence ont mené une contre-enquête. Résultat, ils ont trouvé 144 terrains de pétanque recensés par la mairie. En fait, on apprend que seuls les terrains déclarés au ministère ont été recensés par l'INSEE, alors que la mairie en compte 144. Résultat, selon les Marseillais, ils sont bien à la capitale de la pétanque, mais les Toulousains, de leur côté, sont très fiers du classement de l'INSEE. Alors, comment trancher définitivement ce dilemme ? Eh bien, toujours sur BFM TV, ce Marseillais a une idée.
Ça va se régler, effectivement, les boules à la main.
Voilà, un peu de pétanque entre Toulousains et Marseillais. Voilà, une belle idée pour trancher et déterminer la capitale française
de la
pétanque.
Toutes les études de l'INSEE sont aussi peu sérieuses, c'est un peu flippant quand même.
Bah, l'INSEE a
recensé je parle sous votre contrôle, Emmanuel Le Chip, qui a quand même la passion des études. L'INSEE, habituellement,
l'INSEE, ils ne peuvent pas aller jusque dans chaque rue de Marseille comptabiliser le moindre terrain de pétanque.
Moi, je suis désolé, vous faites une étude.
On va tous se mettre d'accord, le pays du monde où on joue le plus à la pétanque, vous savez lequel c'est ?
C'est la France.
C'est la Thaïlande.
Oh non ! Mais non !
J'allais dire le Vietnam. C'est une des questions les plus célèbres du trivial poursuite.
Ouais. Bon allez, ça mettra peut-être pas tout le monde d'accord, mais c'est dit, il est 6h56. A tout de suite pour la météo et le journal. On sera évidemment dès le début du journal de 7h en Italie avec la victoire de Fratelli Italia.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.